France Culture.
Ça pourrait commencer là. C'est ici que ça commence. Hélène Usdin est Bonnie. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, lancé à corps perdu ce soir entre la ville éternelle et Motor City, Roma et Détroit, deux cités au cœur de l'album signé par nos invités, Hélène Usdin et Bonnie, une des rades tragiques pour mythologie morbide et mégalopole paupérisée, une errance qui est celle de leurs deux héroïnes Becky et Summer, chronique en second temps d'émission, signé Sixtine Audebert, Paloma Hermina Hidalgo et Antoine Guillot. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Alors Mauvais Genre, ce soir, reçoit à l'occasion de l'apparition chez Sarbacane, ce formidable album Détroit, Roma. Hélène Usdin, bonsoir.
Bonsoir.
Et Bonnie, bonsoir.
Bonsoir.
Donc dessinatrice, scénariste, les deux. Je serai en compagnie de... Antoine Guillot.
Mais oui.
Comment
bonsoir,
va-t-il?
Mais il se maintient.
Il se maintient. Dites pas ça. On a l'impression que vous avez 1000 ans.
Bah, écoutez, je vais vous parler en fin d'émission de deux pépés de l'underground qui, à 82 ans, sont en pleine possession de leurs moyens. Donc, ça donne beaucoup d'espoir.
Très bien. Alors, faut surtout dire à nos auditeurs une chose. C'est que le 14 mars, c'est ça?
Le 13 mars.
Le 13 mars, à 18h, à la Cinémathèque de Paris, dans la mezzanine, vous pourrez venir fêter les 10 ans de Plan Large, l'émission d'Antoine. Venez nombreux, avec une bouteille d'alcool, et surtout, n'écoutez pas la sécurité, tout le monde pourra rentrer et s'asseoir. Donc, qu'est-ce qu'il y aura au programme, cher ami?
Ah ben, il y aura 10 ans de cinéma, non pas vu par Plan Large, mais vu par des cinéastes qui sont souvent venus dans les mission et qui choisiront chacun un film qui leur semble raconter ce qui s'est passé dans cette décennie où pour la première fois le cinéma s'est arrêté.
Là,
à un moment, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. On va étudier et écouter, regarder tout ça dans Plan Large.
Avec
fait, donc la 10e saison.
D'aigle, très bien Antoine. Bonsoir Sixtine Audebert.
Bonsoir François.
Alors vous, en matière de cinéma, vous nous préparez un livre qui va faire date sur les cinémaniaques.
Tout à fait, bah, c'est ça. Il est prêt. Ça
il est prêt.
Il part à l'impression.
Bon.
Et il sera disponible à partir de la mi-avril. Effectivement, c'est un livre qui porte le beau double titre hommage de deux vrais cinglés de cinéma, donc à Franck Tachlin. La salle avec amour et acharnement, son sous-titre qui renvoie donc, bien sûr, à... oh, j'ai oublié son
et ben
nom,
voilà.
Aidez-moi Antoine, vous qui êtes...
Ah, il sait pas.
notre réalisatrice française préférée, bien sûr. C'est pas grave. Claire Denis.
Claire Denis, voilà.
Et donc, c'est un livre qui fait presque plus de 500 pages.
500 pages.
Et 17 profils de passionnés.
De cinémaniaques, formidable.
Qui racontent donc leur histoire. Voilà.
Très bien, bah on en parlera comme se doit dans cette émission de fou qu'est Mauvais Genre. Bonsoir Paloma Hermina Hidalgo.
Bonsoir François Angelier.
Alors là, vous êtes arrivé avec des lapins plein les bras.
Pas exactement des lapins, des enfants masqués.
Des enfants masqués, okay, masqués
oui.
En lapin.
Oui, néanmoins.
Très bien, bon, on en saura un peu plus tout à l'heure, je garde bien
sûr,
évidemment le secret. Par contre, je ne garde pas le secret sur les réseaux sociaux et je rappelle qu'on peut trouver Mauvais Genre grâce à Laurent Polleret sur Facebook et puis également sur Instagram, donc Mauvais Genre FC. Et je crois savoir que si vous enquêtez bien sur les réseaux sociaux, ben vous pourrez trouver Laurent Polleret avec des ailes d'archange. C'est un spectacle que je vous recommande. En attendant, bah c'est Laurent Polleret qui s'y colle, puisque je l'ai poussé à affronter le désert urbain et les cités fantômes. Voilà, les cités fantômes selon Laurent Polleret. Donc, je le rappelle, nos invités ce soir, Hélène Usdin et Bonny pour Détroit, Romache et Sarbacane, un album qui a eu le prix, Antoine Guillot, France TV, Villa Médicis.
Et qui aurait dû, et qui aurait eu, qui aurait évidemment, eu. Les meilleurs prix du Festival d'Angoulême s'il avait eu lieu, tant
si de,
c'est vraiment de l'événement.
De méchantes personnes n'ont pas cherché à nuire.
L'événement graphique, l'événement graphique des 365 derniers jours.
Dernières années, on peut y aller.
Et d'ailleurs, à ce point que le livre, il faut quand même prévenir nos auditeurs, nos auditrices, qu'il est complètement épuisé. 18 000 exemplaires ont été tirés, sont partis en un mois. Et heureusement, le livre est en réimpression. Et vous pourrez, dès le 14 ou le 15 février, le retrouver dans les meilleures librairies.
Et on vous conseille évidemment de vous précipiter parce que c'est quand même un pur chef-d'œuvre. Mais avant cela, il faut nous en dire un peu plus sur Hélène Usdin et Bonny, monsieur Guillot.
Alors, Hélène...
Sortez le dossier.
Bah, le dossier est assez mince, je dois vous
comment
avouer.
Comment ça, le dossier
parce que, parce qu'Hélène Usdin est apparue comme une éruption graphique il y a 4 ans seulement, déjà, dans le monde de la bande dessinée, avec un livre tellement extraordinaire qu'il avait sans problème reçu le grand prix de la critique à ses BD.
Ça s'appelait
René au bois dormant, une sorte d'Alice au pays des merveilles, ou plutôt des horreurs, des adoptions forcées au Canada. Hein, 20 000 enfants arrachés à des familles amérindiennes pour être adoptés par des bons petits couples bien blancs, bien comme il faut dans le Canada. Joe Sacco en avait parlé de façon documentaire, et Hélène Usdin l'a d'une certaine manière déliré graphiquement, dans un livre absolument magnifique sur la fluidité des genres, aussi des identités. Alors après, on s'est un peu intéressé à qui était Hélène Usdin. On s'est rendu compte qu'elle avait eu une vie, et quelle vie, avant la bande dessinée, puisqu'elle est à la fois photographe, réalisatrice, dessinatrice, peintre. Elle a notamment, et elle nous racontera comment, beaucoup photographié Détroit. Ça donnait lieu à un livre, We Are Woodbridge, du nom du quartier de Détroit, qu'elle avait photographié, exposition évidemment à Détroit entre autres. Et puis on apprend qu'en 1998, elle est à la fois diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, et par un hasard étrange de l'histoire, elle donne naissance à un jeune homme, Bonny, la même année. Ça a dû être compliqué pour le diplôme sur la fin, et alors qui lui n'est pas en reste dans le côté artiste multitâche pluridisciplinaire, puisqu'il est à la fois dessinateur, c'est comme ça qu'on le découvre avec ce livre, mais surtout musicien. Il a déjà sorti une bonne dizaine, 11 disques, je crois, qui fait à la fois des musiques de films, de jeux vidéo, mais qui fait aussi toutes sortes d'expositions. Enfin voilà, donc on a tout ça, ça aboutit à un livre qui est d'autant plus extraordinaire qu'il est infusé de toutes ces pratiques artistiques diverses, et ça donne ce grand, grand livre qu'est Détroit, Roma, ou faudrait dire Detroit, Roma.
Roma, Detroit, mais... Antoine, je ne vais pas vous dire vous oubliez l'essentiel, mais vous oubliez quand même quelque chose d'essentiel dans l'univers d'Hélène Usdin, ces masques tricotés.
Oui,
j'en ai un en main. Là.
Ceux qui ont eu la chance au Festival d'Angoulême en 2022 d'assister à la remise du prix, enfin non, c'était en 2023, à la remise du prix à Martin Panchaud pour son livre aussi formidable, La couleur des choses, l'ont vu affublé d'un masque tricoté qui est évoqué pour les amateurs de catch mexicain, les masques.
Alors, c'est celui que j'ai, des
forçats de la lucha libre.
Moi, j'ai un masque Santo.
Et effectivement, on publiera une image sur les réseaux sociaux,
bien sûr.
Comme vous dites, pour montrer les talents aussi de tricoteuse de masques d'Hélène Usdin.
On peut les voir à Hélène Usdin en ce moment où?
Oui, alors il y a une exposition au Centre culturel André Malraux à Nancy.
André Malraux, vous voyez, André Malraux, Antoine Guillot est un grand homme.
Il revient toujours dans cette émission. André Malraux revient toujours.
Et c'est une exposition qui présente autant, pour la première fois, des planches de Détroit Roma, justement, mais avec un plan plus large sur mon travail, donc photos, projections, musique et crochets.
Voilà, ah oui, parce que c'est du Paris. Crochet. Et alors,
ouais, c'est du crochet très spécifiquement. C'est pas du tout la même chose que les aiguilles.
À quoi ça correspond dans votre parcours polytechnique et
le tricot.
Le tricot, parce que ma grande tristesse ce soir, je dois l'avouer, c'est de ne pas pouvoir animer l'émission en l'ayant sur la tête, parce que ça avale le casque, les lunettes, j'y arrive pas. Alors, j'ai déjà essayé, mon cher Laurent, mais je vais être complètement hagard, un peu plus que d'habitude. Et Antoine a essayé aussi, mais il a essayé des lunettes et un casque, on n'y arrive pas. Enfin, on a le casque à côté, on a le tricot là.
Ouais, alors, correspond
à quoi cette...
Ça correspond à, d'abord à un hobby en fait, c'est un passe-temps, c'est quelque chose que je fais en regardant des séries ou des films à la maison, mais que je fais aussi en voyage. Et là, typiquement, vous avez de la laine qui vient de Bangalore et de la laine qui vient de Oaxaca au Mexique. Et en fait, c'est un peu toujours mon cheminement quand j'arrive dans une ville, c'est d'aller me fournir en laine. Et en fait, tout ça, les masques ont commencé quand j'étais à Bruxelles pendant le confinement. Et puis, je m'ennuyais de mes amis parce que je suis de Paris. Et donc, je leur avais demandé de m'envoyer des dessins d'eux-mêmes, enfin, qui se dessinaient. Et à partir de ces dessins, je tricotais des masques leur ressemblant. Puis, je posais avec et je leur envoyais la photo comme une carte postale de lien qui nous unissait au-delà du fil tricoté, quoi. Ça a commencé comme ça, vraiment comme un jeu. Puis finalement, en fait, maintenant, c'est exposé. Voilà, vous les avez là.
Bonnie,
moi j'avais fait un dessin, j'avais fait un autoportrait pour qu'elle me fasse un masque et elle m'avait dit mais non, tu t'es fait trop moche, je peux pas le faire.
Mais non, mais il faisait hyper peur ton autoportrait, il s'était dessiné.
Ouais,
c'est vrai.
Faut dire que c'est vrai, des masques réjouissants avec des couleurs pétantes et tout ça, et enfin on vous les verrez après sur les réseaux sociaux bien évidemment. Alors Antoine Guillot, Détroit, Roma, deux mythologies de la puissance urbaine et puis deux histoires tragiques puisque les deux villes se sont effondrées. Bah, l'une est encore là et en bonne santé, qui est Rome, mais Détroit.
Bah déjà, il faut peut-être dire de quel Rome il s'agit, ou alors il faut pas le dire, puisque c'est un des objectifs, une des directions que prend ce livre, c'est aller à Rome et voir ce que c'est. Et c'est pas toujours ce qu'on croit. Alors, j'aime bien que vous parliez de mythologie, parce que le livre commence dans la mythologie. Le livre commence dans la folie, dans le rêve. D'ailleurs, un lecteur distrait pourrait croire qu'il a commencé chez Émile Ferris, et tout ce que j'aime, c'est les monstres, parce que ça commence avec une utilisation mais d'une maestria totale du stylo bic multicolore dans un territoire post-apocalyptique, d'une ville envahie d'herbe avec déjà des mots, avec des paroles. Alors on entend ça, mais on pourrait écouter du Jill Scott Heron à la place, parce que c'est la bande-son de ce début, où à la fois la musique et les cris de bébés font à la fois une sorte de tapis dans l'eau et des volutes dans les airs, et où un tigre, alors les amateurs de baseball savent très bien que le tigre est l'emblème de l'équipe de baseball de Détroit, va dénicher dans un pneu. Encore quelque chose qui évoque Motortown. Deux bébés, deux petites filles, une rousse et une noire, qui vont être emmenées par le tigre et hébergées dans un immense pneu. Et là, tout d'un coup, on se dit, c'est comme si la ville elle-même générait cette histoire, comme si les personnages étaient nés de la ville elle-même. Pourquoi est-ce que vous avez commencé comme ça? Est-ce qu'il a été évident dès l'écriture que ça allait commencer comme ça, ce livre?
Alors,
oui, je pense qu'on avait assez rapidement l'envie de ce prologue qui effectivement fait le lien entre Rome et Détroit. par deux cités qui se sont effondrées, par le mythe de Rémus et Romulus, par ce tigre emblématique de Détroit, et par ce pneu, parce qu'effectivement, la première chose qu'on voit quand on arrive à Détroit, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce pneu universel, qui est installé comme ça sur l'autoroute, sur la avenue Michigan qui amène...
Unie Royale,
voilà, exactement. Et ensuite, on l'a beaucoup travaillé, ce prologue, parce qu'au début, il y avait beaucoup de textes qu'on a finalement enlevés, mais c'était quand même une envie qui est venue assez vite, non ?
Ouais, et puis on trouvait ça intéressant de le traiter graphiquement de façon très pop, presque ado, et donc d'où l'utilisation du stylo Bic et de couleurs hyper flash pour justement contrer cette idée du mythe romain.
Oui, et puis il y a aussi, en fait, c'est Becky, en fait, qui dessine ces planches.
Ça, on le saura à la fin.
On le sait à la fin, bon, voilà. Je dévoile un peu, c'est pas grave. Mais c'est pour ça aussi, cette utilisation du stylo Bic, quelque chose qu'on a dans sa trousse, qui est très facilement utilisable. Et effectivement, c'est aussi un hommage à Émile Ferris, dont j'adore le travail, et qui a quand même fait deux tomes autour de la ville de Chicago, qui finalement n'est pas si éloignée que ça de Détroit.
Et alors ça commence, ça c'est une des pistes, parce que ce qui est vertigineux dans ce livre, et c'est un des bonheurs de s'y perdre, c'est qu'il y a beaucoup de fausses pistes. Ou alors des vraies pistes, mais qui ne nous mènent pas là où on croit qu'elles vont nous mener. Parce que juste après ce prologue, on est dans une salle de cinéma, parce qu'il y a des portes exit. Bah, c'est mon téléphone qui sonne, bravo.
Oui, oui qu'on vous oublie pas.
Avec des sorties de secours sur le côté. Et qu'est-ce qu'on voit ? On reconnaît tout de suite un plan célèbre de la fin de Thelma et Louise. Et c'est marqué « ça pourrait commencer là ». Et ça va arriver, vous l'avez cité tout à l'heure François en exergue, ça pourrait commencer là, ça va arriver plusieurs fois au fur et à mesure jusqu'à ce que ça commence ici. Donc déjà on se dit pourquoi ça commencerait là et pas autrement. Enfin il faut bien choisir un moment où on commence à raconter son histoire, mais finalement on pourrait le prendre un autre moment. Mais ça commence par cette image de Thelma et Louise qui déjà nous dit ok, ces deux petites filles, ça va être des Thelma et Louise et on va suivre leur histoire avant de se rendre compte que leurs relations sont peut-être encore un peu plus compliquées que ça. Alors ce goût des à la fois des fausses pistes et cette manière de se dire bah on va jouer avec vos propres images, celles que vous avez du cinéma, on va y revenir là encore pour tout de suite vous donner une idée des personnages.
Oui, je pense que ce qui nous intéresse beaucoup dans le cinéma justement c'est cet imaginaire collectif que le cinéma véhicule et comment avec seulement une image, donc ici la fin de Thelma et Louise, on peut faire naître comme ça dans l'imaginaire collectif une histoire qui existe déjà et qui est une fausse piste, c'est vrai. Et je pense que l'autre dimension du cinéma donc dans la BD, c'est comment Summer va raconter la vie de sa mère à travers le cinéma et aussi plus globalement ce qui nous intéresse, c'est comment les États-Unis, l'histoire des États-Unis existe à travers le cinéma et comment cette histoire a été construite sur des vagues d'immigration de plein d'endroits, mais donc pour nous d'Italie et d'Europe de l'Est. Et donc comment cette histoire qui est l'histoire des États-Unis ou qu'on voit comme l'histoire des États-Unis, en fait, c'est une histoire qui vient d'ailleurs et c'est ça aussi qui nous intéresse.
Oui, et pour revenir sur le... ça pourrait commencer là ou ça commence là. En fait, ça c'était au départ un outil de travail qu'on a eu ensemble, parce qu'en fait, très vite on a su que c'était une histoire qui allait être racontée par quelqu'un, par Becky, et toute la question de savoir effectivement où on commence une histoire quand on raconte une histoire. Et en fait, on s'est servi de cet outil de « ça pourrait commencer là » parce qu'au début, c'était des post-it qu'on avait mis effectivement sur nos montages, sur nos petits tirages de pages qu'on avait de storyboard. Et c'était « ça pourrait commencer là »,« non, ça commencerait là »,« ça pourrait être ci ». Et finalement, en fait, c'est un moment du travail qu'on a décidé de garder. L'autre chose que je voulais rajouter par rapport à cette ouverture, c'est qu'effectivement, c'est une ouverture, mais une fermeture en même temps. Et c'est un peu ça qu'on fait à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est le début, mais en fait, on sait tous que c'est la fin du film, quoi. C'est un peu
c'est
comme...
le dernier plan. Hein.
C'est le dernier plan, voilà, c'est ça. C'est un peu aussi ce qui se passe à la toute fin du livre où on dit ça commence ici et en fait, bah, ça commence ici, mais c'est la fin, quoi. En fait, il y a toujours ce truc de boucle un peu temporelle qu'on essaye de mettre en place dans l'idée, effectivement, que où commence une histoire, finalement, on pourrait la commencer n'importe où. Et c'est aussi tout ce rapport à la mémoire et donc à la mémoire de Becky aussi.
Et ça, vous le racontez même très directement. Il y a une page où on voit une accumulation de calendriers, enfin de cases, de dates,
qui sont
comme des cases, qui sont comme des ouais. tiroirs. Et il y a un texte qui dit les événements les plus récents n'effacent pas les plus anciens. Ils se combinent à la manière de calques superposés. Le temps modifie ma mémoire jour après jour sans que je puisse prédire comment tout cela s'agencera. Et qu'est-ce que ça dit justement de la manière dont vous avez agencé les différentes temporalités du récit? Parce que j'ai le sentiment, comme rarement en lisant une bande dessinée, que ça tenait du montage cinématographique. Mmh. Et que peut-être que jusqu'à la fin, en réagençant différemment les épisodes, tout d'un coup, ça pouvait raconter autre chose que ce que vous aviez prévu au départ.
Bah, c'est marrant parce que on n'a pas du tout... fonctionner de manière conventionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas écrit un scénario à l'écrit, ensuite fait un storyboard et ensuite réalisé la bande dessinée. On n'a presque rien écrit, on se voyait beaucoup pour parler des personnages, l'histoire est venue à découler des personnages. Et ensuite, Hélène a fait quand même plusieurs storyboards, mais une fois que tu as fait les planches définitives, on ne savait pas vraiment comment on allait monter le tout. C'est-à-dire qu'on avait toutes 365 pages de planches définitives qu'on avait accrochées dans son studio, sur tous les murs, et ça a été un travail monstre de tout redéplacer pour choisir...
C'est ça, c'est un peu comme si c'était notre chutier avec un montage, effectivement, qui aurait pu être tout autre, et ça a bougé jusqu'à la toute fin. Et on a eu de la chance d'avoir un éditeur qui a accepté qu'on travaille de cette façon-là, en nous laissant jusqu'à fin août, alors que Liv devait sortir dans la foulée. Voilà. Et je voulais dire un truc, mais je ne sais plus du coup.
D'autant qu'il y a quand même un sentiment labyrinthique à la lecture de cet album, qui a une forme italienne, est assez épais. Il y a un sentiment labyrinthique, puisqu'il y a la construction des pages varie tout le temps. Ça peut être assez classique, un peu comme un roadbook, un carnet comme ça de voyage. Des fois, c'est une espèce d'explosion. On a l'impression d'être chez un Busby Berkeley sous acide. Ça explose dans tous les sens. On passe de couleurs tendres mais intenses à un noir et blanc. Il y a du noir au blanc. Il y a la carte à gratter par moment. Je veux dire, il y a un festival absolument extraordinaire de moyens graphiques qui semble s'accorder, je dirais, à la complexité des récits autobiographiques des deux personnages, puisque dans les deux cas, on n'apprend pas les choses de manière franco de port, comme ça, chronologiquement. C'est un peu comme si on faisait l'inventaire de la malle du pirate. On renverse tout, et puis après, débrouille-toi, on prend un objet, on prend une lettre, on prend une carte, on prend un sabre, j'en sais rien, une bouteille de rhum, et puis on essaie de comprendre quelque chose. Il y a une volonté à la fois d'ordonnancement, puisqu'on est quand même à Détroit, donc enfin c'est quand tout est tracé, tout est bon, et en même temps de mystère et de labyrinthe.
Oui, et je pense qu'il y a aussi une volonté de lâcher prise au moment de la réalisation des planches définitives. Pour moi, c'est hyper important d'avoir, et c'est ça qui a pris du temps dans l'élaboration du livre avec Bonnie, c'est qu'on a vraiment pris le temps de réfléchir à nos personnages, réfléchir à l'histoire, l'interaction qu'ils avaient entre eux, comment effectivement on allait raconter cette histoire de quelqu'un qui va raconter son histoire ou sa mémoire. Mais après le temps de la réalisation des planches, donc vraiment de la main à la pâte, pour moi, il est nécessaire qu'il soit très court et qu'il y ait une sorte de réel lâcher-prise pour justement laisser venir aussi l'instinctif, l'intuition, et aussi faire travailler dans un sens ma mémoire, en fait. Mais je pense aussi, c'est ça que j'ai retrouvé, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que donc on a beaucoup travaillé à l'oral, et à un moment, le storyboard a pris la place parce qu'il fallait commencer à installer l'histoire d'abord par séquence, sans savoir comment on allait les monter entre elles. Mais il y a eu un moment où aussi le dessin s'est emballé et a emmené l'histoire, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin du dessin pour aller dans la narration. Et à un moment donné, on se dit avec Bonnie, la mère de Becky, elle est morte noyée. Moi, quand je vais commencer à dessiner ces pages, je pense que le cercueil devient la baignoire, en fait. Mais tout ça, c'est des éléments symboliques qui arrivent au moment du dessin, en faisant le dessin. Donc là, en fait, encore une fois, c'est la chance d'avoir cet éditeur Fred et Marie Lavabre qui nous ont laissé
la manœuvre, enfin la possibilité en fait d'avancer aussi un peu à tâtons jusqu'à la fin.
Oui, et moi, je voulais revenir sur l'idée de laisser le lecteur se débrouiller pour faire sens. Je pense que Hélène et moi, au cinéma, on aime vraiment le cinéma qui fait confiance au public, donc qui n'essaye pas de tout expliquer et qui aussi ne montre pas tout. Et pour nous, ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, depuis que Détroit à Roma est sorti, ce qui est génial, c'est que on a plein de lectures différentes en fait de la BD, et parfois exactement celles qu'on avait en tête, parfois d'autres, et ça, c'est, je trouve ça super. Et donc c'était important pour nous de créer une œuvre où on laisse la place au lecteur de mettre aussi de son vécu dedans et de se faire de trouver du sens dedans comme il ou elle l'entend.
Bonnie, réaction ?
Non, c'est super de l'écouter ici parce que...
Qu'est-ce que c'est ?
Ah, pardon, c'est mon morceau Summery Days qui fait office de soundtrack de la bande dessinée, qui prend un peu la perspective de Summer à un moment où Becky et Summer ne se parlent plus et où la mère de Summer décède. Summer days were cold when you're missing a close friend. Said we'd hit the roads, how did we just reach a dead end? What's fun in the joke when you got no one to tell? What's good in the drawing if it sits on the shelf? I try to call you, cause my mom is dead. Summer days are cold.
Antoine Guillaume.
J'aime beaucoup que vous aimiez, comme nous, les films où le spectateur doit travailler, mais c'est aussi les films où le spectateur est accueilli. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser de la place. Et quelqu'un qui faisait ça très bien, évidemment, c'est David Lynch. Et on n'est pas très étonné de retrouver au centre de ce livre une magnifique image de Mulholland Drive. Avec les deux infortunés personnages de ce film là en train de regarder un film comme si elle nous regardait nous aussi comme lecteur. Il y a quand même quelque chose de très lynchien dans votre livre, parce qu'il y a question, comme dans toute la filmographie de Lynch, de ce que la société fait aux femmes, de comment échapper à un scénario qu'on n'a pas écrit. Alors est-ce que l'esprit de Lynch maintenant disparu, il faut apprendre à vivre sans Lynch, vous habitez comme ça pendant la réalisation de ce livre?
Ah oui, complètement. Moi, je peux dire que je suis vraiment une fan et je pleure Lynch qui est mort. J'avais toujours l'espoir, peut-être un jour, le rencontrer, lui dire à quel point je suis complètement habitée par son travail, par son cinéma, par aussi sa façon de voir le monde, les choses, d'en parler. Et effectivement, cette apparition de Mulholland Drive au milieu du livre, à un moment crucial de l'histoire, où on va apprendre quelque chose de très important... c'était un choix vraiment de choisir spécifiquement cette scène de Mulholland Drive, qui est un peu aussi le moment de bascule dans le film, qui est face à une scène. Donc il y a toute une histoire de mise en abîme aussi entre notre livre, ses spectatrices qui nous regardent. Voilà, donc oui. Et sinon, Lynch aussi, c'est son rapport à l'Amérique, aux petites villes, à la façon dont il arrive à décrire des villes ordinaires où il va se passer des choses absolument atroces. Donc tout ça, en fait, effectivement, c'est très, très inspirant. Et on a été habité, je pense, par son cinéma bien avant la BD, mais aussi pendant la BD.
Oui, oui. Et toi aussi, tu travailles quand même énormément à partir de tes rêves.
Oui.
C'est Hélène très fréquemment m'appelle et me dit « Ah, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Vraiment, c'est très fréquent. Donc je pense que pour ça, il y a des similarités aussi. Et puis oui, c'est vrai que Lynch, c'est quelqu'un qui, en interview, refusait complètement d'expliquer ses films. Et une des choses qu'il disait que je trouve intéressante aussi, c'est que dans la réalité, il y a finalement assez peu de choses qui ont du sens et on se débrouille très bien pour leur donner du sens et pour créer des liens. Et donc, il essaye de recréer ça au cinéma et je trouve ça assez intéressant. Oui.
Bah c'est d'ailleurs une des choses passionnantes et c'est pour ça qu'on a envie de relire et relire sans cesse votre livre. C'est qu'on est persuadé qu'il s'y cache des signes qu'il va falloir interpréter, oui. Comme le personnage qui reprend le Underground Railroad en essayant de retrouver les signes comme ça qui permettaient aux esclaves noirs en fuite de trouver le chemin et l'espoir vers le nord. Mais alors, ce qui est très passionnant dans ce rapport au cinéma qu'il y a dedans, autant il y a beaucoup de citations de films et sous forme d'images et qui dit vraiment à quel point le cinéma nous aide à penser le monde aussi et nous forme et nous informe sur le monde, mais il ne faudrait pas croire pour autant que vous faites un film sous forme de bande dessinée. Et c'est ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est que c'est une pure bande dessinée et que ça ne pourrait pas exister autrement. Et il y a notamment ces moments très troublants où on a l'impression que le livre devient la ville, que vous cartographiez la ville, qu'on peut s'y déplacer, que les personnages s'y déplacent comme s'ils étaient dans la ville. C'est à plusieurs reprises, il y a ces grands plans de circulation où les cases prennent la forme de la ville, vraiment ces doubles pages architecturales. Ce livre a cette ambition-là aussi, de devenir comme un double de la ville.
Oui, je pense qu'on a pensé Détroit comme un des personnages de notre histoire. Et clairement, comme vous le dites très justement, on reste dans ce cadre de la bande dessinée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'utiliser les codes graphiquement et toutes les possibilités qu'offre la bande dessinée en essayant de les tordre un maximum, ou en tout cas de les pousser à bout. Et effectivement, cette possibilité, grâce aux gouttières, donc aux espaces laissés entre les cases dans une bande dessinée, se servir de ça pour fabriquer une double page qui ressemblerait presque à un plan de la ville dans lequel les personnages vont se promener, ou une autoroute sur laquelle un camion poubelle va passer, etc. Donc l'idée, c'était vraiment aussi de ramener du sensoriel aussi dans la ville, en fait. C'est-à-dire que chaque double page, j'ai vraiment essayé de lâcher la prise, comme je le disais tout à l'heure, mais d'invoquer des sensations et des émotions qui correspondent à chaque chose qu'on raconte à chaque page, en fait.
Sauf que la gouttière, dans la bande dessinée, c'est précisément l'espace laissé au lecteur.
C'est-à-dire oui.
C'est entre deux cases, c'est toujours cet endroit où le lecteur va accomplir l'action lui-même. Ce qui est très frappant, c'est que cette gouttière, elle existe dans le passé, mais dans le présent, elle n'est plus là.
Exactement.
Comme si tout d'un coup, on n'avait même plus la place de réfléchir et qu'on était dans l'expérience brute de ce qui se vit.
C'est exactement ça. En fait, en réfléchissant avec Bonnie, comment déjà séparer nos fils narratifs du présent, du passé, etc. L'idée était d'avoir un présent tellement immédiat qu'on n'a plus le temps d'en faire des séquences, en fait. Il est immédiatement, entièrement fondu dans la masse de ce qu'on est en train de vivre. Alors que le passé, la mémoire de Becky, effectivement, elle a eu le temps d'en faire des séquences, ou en tout cas de le mettre en récit.
Exactement. Oui, c'est un album qui fonctionne un peu sur le mode entre le réalisme critique et l'onirisme, je dirais l'onirisme critique. C'est-à-dire que le rêve n'est pas là pour vous emmener au-delà ou par-delà, vous libérer de la réalité, mais au contraire, vous aider à mieux intégrer et à mieux vous assimiler les crises du réel. C'est quand même assez fort. Et donc là, c'est la crise de Détroit, avec son eau putride, ses affairistes. Et les personnages ont toujours, là on parlait de Lynch, effectivement un double statut, à la fois historiquement le côté les magouilleurs, les hommes d'affaires, et puis le lumpen prolétariat, ceux qui rêvent, et puis ceux qui sont écrasés par le quotidien. Alors la mère de Summer, elle, c'est une actrice ratée, on peut le dire. Mmh. Quelqu'un qui rêve ce qu'elle aurait pu être en se projetant en boucle les films qui sont son panthéon cinématographique.
C'est alors Gloria Swanson, mais qui n'aurait même pas fait de film, quoi.
C'est Gloria Swanson à qui Eric von Stroheim aurait offert un lecteur de VHS. Et donc, il y a quand même une drôle de fonction comme ça, à la fois de mener une critique de l'Amérique, puisque c'est quand même pas un livre innocent, et qui mène, vous avez aussi publié un recueil de photos sur les habitants de un quartier de Détroit, donc vous êtes présent dans le présent de cette ville historique, et en même temps, bah, ma foi, lynchiennement parlant, vous êtes comme ça, vous flottez comme des esprits à la verticale de tout ça.
Oui, c'est. En fait, je me demande si on. En fait, je me demande si on aurait fait la BD de la même façon si on la faisait aujourd'hui. C'est-à-dire que quand même, c'est une BD qui est très critique de l'état politique américain de 2015 et au moment où on l'a écrit 2020-2021. Mais il y a quand même un certain. Enfin, on y exprime notre amour pour le cinéma américain. Et même au-delà de ça, ce qui est fort, je trouve, c'est que toi, tu arrives à trouver de la beauté dans, mais comme faisait Stephen Shore ou certains photographes des années 60, à trouver de la beauté dans une aire d'autoroute, un diner, des choses comme ça. Mais donc, je me demande si on arriverait à avoir le même regard et le même engouement aujourd'hui aux États-Unis.
D'écrire une bande dessinée sur les États-Unis, ouais, peut-être
ça
pas.
Ça serait peut-être beaucoup plus mais... sombre.
Pale messages from the world. All gentle glass things. Hot strips of iron. In the trenches. Our aching memory of home. Sickening uttered phrases. Spewed out in some hour. Of dour and abstract loss. A last thought of silver. Glinting across the forehead. The cut running deep. Blood flowing down the face. Is this what you wanted? These shattered, scissored wounds.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Et Antoine Guillot.
Oui, vous dites, je ne sais pas si vous ne savez pas si vous feriez la même bande dessinée aujourd'hui. En même temps, si on veut comprendre comment Trump a pu arriver, comment on a pu passer de Michael Moore à Donald Trump, puisqu'il avait fait ce film là sur cette pollution de l'eau que vous racontez à Flint, Michigan. C'est ça aussi que vous racontez.
Oui, tout à fait.
Cette Amérique dévastée à la fois par des crises économiques, par une corruption généralisée, et qui est prête à se jeter dans les bras de l'ogre.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ça. On pose un peu les prémices avant le premier mandat de Trump, puisque la bande dessinée se passe en 2014-2015. Et on a effectivement des écrans télé, plein d'éléments, plein de symboles dans la traversée des deux filles qui nous rappellent ça, en fait, qui nous rappellent que voilà, là, le déclin est déjà là et le cheminement vers le trumpisme est en train d'arriver.
Et en fait, avant d'écrire la BD, moi j'avais passé un an à Los Angeles où j'étudiais à UCLA. Et une chose qui m'a vraiment, vraiment marqué, donc Trump était déjà président, c'était juste avant l'élection de Biden. Une chose qui m'avait marqué, c'était à quel point le microcosme de UCLA était totalement, totalement, totalement aveugle à cette population qui votait pour Trump, mais complètement. C'est-à-dire que les débats étaient tous évidemment valides, mais ignoraient complètement cette plus de la moitié de la population, enfin des votants en tout cas, qui avaient voté pour Trump. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment frappé. Et je pense qu'on a voulu aussi mettre de ça dans la bande dessinée.
Oui, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce trajet de Détroit à Rome aux États-Unis en octobre 2023, pour vraiment aller documenter, me rendre compte vraiment en photo, mais aussi ressentir à quoi ressemblait cette tranche des États-Unis, donc de Détroit à Rome en Géorgie, qui est donc aussi la route que faisaient les esclaves en sens inverse pour fuir le Sud, et que fait Becky dans ce sens-là pour rendre hommage à ses ancêtres. Et j'ai pu voir effectivement à quel point déjà l'Amérique est pauvre. L'Ohio, le Tennessee, l'Indiana, Kentucky, enfin tous ces états qu'on traverse, c'est très pauvre et c'est des pauvres blancs en fait. Et on sent à quel point le Trumpisme allait arriver en fait.
Est-ce que vous avez voulu aussi vous inscrire dans une histoire de l'art américain, parce que graphiquement parlant, vos peintures, alors il y a une fausse piste qui est celle de la couverture, qui serait la dimension Edward Hopper, mais
plus David Hockney.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'un David Hockney, mais qui serait passé un peu à la moulinette de l'underground du comics avec un X, puisqu'on va parler de Robert Crumb et de Bill Griffiths tout à l'heure, notamment je pense à la déformation des corps. Qui n'est pas très loin de l'époque Keep on Trucking de Crumb. Il y a un peu de Guy Pellart aussi, Pravda la survireuse, dedans. Mais il y a ce sentiment aussi que se synthétise voilà, toute une histoire de l'art du XXe siècle aux États-Unis.
Oui, je pense qu'on c'est très conscient d'avoir été regarder l'art américain, autant la peinture que la photographie. En fait, comme le rappelle Bonnie, le format aussi a été défini pour un format 6-7, qui est donc... le moyen format des photographes américains quand ils traversaient les États-Unis pour photographier les paysages urbains, des choses qui à l'époque n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt, mais qui aujourd'hui en fait cartographient et disent beaucoup du territoire américain. Moi, je suis plus proche effectivement de la peinture que de la bande dessinée en soi, mais les déformations de corps, enfin tout le côté très graphique, très dessiné, en fait, c'est quelque chose que j'appose aussi à côté de la technique très peinture, parce que tout est de la peinture, en fait. Il n'y a pas du tout de numérique, c'est dans le geste, en fait.
Et on sent le côté aqueux, il est beaucoup question d'eau dedans, il y a quelque chose de très mouvant, justement, dans cette utilisation de la gouache ou de l'aquarelle, ou je ne sais quelle technique. C'est un livre, on a presque l'impression qu'il va parfois nous glisser dans les doigts.
Tu vas vous inonder sur...
Voilà, oui, on est complètement pris dans le Michigan.
Alors, Alain Usna, le premier album traitait justement de ces enfants arrachés à leur famille pour... j'ai intégré d'autres familles, socialement plus puissantes et intégrées elles aussi. Le second, on vient d'en parler. Le troisième, est-ce qu'il y a quelque chose déjà de près de...
Oui.
Il
y a une route qui se dessine.
En fait, donc ta troisième BD, ma deuxième BD. Cette fois-ci, on va se séparer plus les rôles. Et donc, c'est moi qui écris un scénario qui sera écrit cette fois-ci. J'écris sous forme de ciné, enfin de scénario de ciné. Et donc, c'est Hélène qui fera les planches. Ça se passera à Paris. Et ce sera plus personnel, je pense, plus proche de nous.
Mais en tout cas, encore une galerie de personnages, des interactions.
Et même plus que ça, ce sera un récit oral.
Hélène Usna, Bonnie pour Détroit Roma, paru aux éditions Sarbacane, un événement graphique de notre période de début d'année.
Thank you.
Chronique maintenant dans Mauvais Genre. On commence avec vous, Sixtine Audebert. Retour sur l'édition 2026 du festival de Gérard May.
Tout à fait, sur la 33e édition du festival qui célébrait les masques. Alors, comme chaque année, la réservation relevait du marathon. Les passes ont été très rapidement sold out face au succès grandissant de la manifestation. L'organisation était toujours impeccable. Les bénévoles, il faut le redire, ces locaux qui se dévouent à la cause du festival étaient merveilleux. Et la grande nouveauté de cette année, qui faisait la joie des festivaliers, c'était l'annonce de l'allongement de la durée du festival avec une journée supplémentaire le mardi. Maintenant, que dire de la programmation elle-même?
Mais
d'abord, l'impardonnable absence de documentaire. Bon, effectivement, je nuance. D'abord, l'impardonnable absence de documentaire, hein, ces métrages qui ont toujours ma faveur. Ensuite, il semble que l'arrivée de ce cinquième jour tant espéré ait repoussé toutes les rétrospectives au mercredi et au jeudi. Donc, si vous vouliez, par exemple, découvrir les films du Philippin Django à Noir, eh bien, si ce n'était pas vous n'étiez pas là le mercredi ou jeudi, c'était râpé, fini. Et enfin, bah, habituellement, les thématiques donnent lieu à des savoureuses propositions de métrages plus rares. Je me rappelle, par exemple, une bisserie improbable d'Antonio Margheriti, Danse macabre, que découvrir, ou la découvrir en salle sur un grand écran, sinon dans la MCL, la Maison de la Culture et des Loisirs de Gérard May. Bizarrement, cette année, la section est restée très, très, très classique, hein, superbe, entendons-nous, mais sans originalité. C'était Phantom of the Paradise, Le Masque du Démon, magnifique, hein, mais vu et revu, Donnie Darko et j'en passe. Alors, que se passait-il le reste du temps, le vendredi, samedi, dimanche? Eh bien, ces journées étaient entièrement consacrées aux nouveautés, la part, disons, périlleuse de la programmation, mais où l'on trouve chaque année hein, des petites pépites, des flamboyances. Rappelons-nous l'an passé du slasher contemplatif In a Violent Nature de Chris Nash. En 2024, le répugnant When Evil Lurks de Damien Ruggina. Ou le brutal et gracieuse Sadness hein, de Rob Jabaz en 2022, qui avait aussi beaucoup ému le public. En comparaison, la sélection de cette édition était à évaluer, disons, non à la qualité des métrages, mais à l'aune de ce que le film correspondait ou pas finalement à celui de l'esprit d'un festival de genre. Et pourtant, pas n'importe lequel festival de genre. Hein. Alors, j'ai réfléchi sans réussir à trouver une autre étiquette à coller à cette savonnette idéologique qu'on a subie durant le festival. J'utiliserai le terme le néologisme de féministe exploitation, hein, puisque c'était réellement de la pure exploitation ultra formatée du sujet vendeur qui est devenu aujourd'hui la condition des femmes. Alors, les spectateurs étaient en quelque sorte pris en otage dans une vaste opération de communication du festival, avec un quota de films clonés qui portaient donc des discours entre guillemets féministe, avec toujours une femme au centre, la quasi-totalité du jury féminin, une femme invitée d'honneur. Et je peux dire qu'en tant que femme, personnellement, je ne suis pas très très dupe de cette volte-face racoleuse et cosmétique. Alors, par ailleurs, si ce choix était peut-être, et je le pense aussi, idéologiquement peut-être pertinent, il s'est révélé plutôt douteux du point de vue purement cinématographique. Et les films, disons, féministes faute de mieux, étaient pour la plupart disons, construits à rebours de ce qui faisait autrefois le sel des productions de genre, la jouissance transgressive et régressive qui était son apanage, pour ici une sorte de matraquage de pesantes leçons de morale à très très gros sabots et d'un premier degré souvent très affligeant. Alors évidemment, il reste quand même quelques titres à sauver. Cher François, vous avez vu vous-même Kadiat, il me semble.
Kadet.
Oui, Kadiat,
film kazakh.
Kazakh, tout à fait, de Adilkhan Yerjanov.
Formidable.
Effectivement, ce petit génie dont nous avions déjà parlé ici, lors de la chronique de l'étrange festival. Il y avait également le très barré film d'animation en image par image, Junk World, du japonais Takahide Hori. Un joli petit film indépendant, britannique, sur la dépression, très dans l'esprit roman graphique, néo-comique, de Sing With Feathers, de Dylan Southern. Il y avait Flush, qui a remporté aussi là le délire du public lors d'une soirée spéciale, mais qui n'était pas en compétition. Donc Flush de Grégory Morin. Et puis des troisième ou quatrième couteaux qui étaient donc bien grassouillés, loin de mériter le prix Nobel, mais qui étaient toujours efficaces et qui, dans ce contexte-là, devenaient en quelque sorte d'autant plus appréciables. Alors, comme le disait un festivalier déçu, dont je captais les échos d'une conversation dans la queue, où en train de s'abreuver au Neptune, le célèbre bar qui est en face du casino, si c'est ça le cinéma de genre en 2026, ce n'est plus pour moi. Donc espérons que l'édition 2027 détrompera ce festivalier et que tout le monde reviendra à Gérardmer pour célébrer le genre et le festival de cinéma de genre.
Voilà, à bon entendeur, salut que ceux qui doivent entendre, entendent. Merci Sixtine Audebert pour d'abord cette présence, ce reportage et cette recension extrêmement pointilleuse et tranchante de l'événement où nous étions. Bien sûr, j'étais là-bas avec Philippe Rouillet. On a pu voir de fait Cadet, qui est un film très, très, très étonnant.
Film de pensionnat,
d'académie militaire, film fantastique. On avait déjà vu Assaut du même, qui mettait en scène toute une enquête criminelle dans une sorte de lycée perdu au milieu de nulle part. Dans la steppe
neigeuse. Et avec des partis pris de réalisation très audacieux.
Absolument. Il y avait aussi Alter Ego, mais qui n'a rien à voir avec le cinéma de genre, qui est une comédie avec Laurent Lafitte, très très étonnante. On ne vous en dit pas plus de Nicolas et Bruno. Merci donc, Sixtine Audebert. On passe maintenant à Paloma Hidalgo. Alors là.
Oui, donc après ces quelques déconvenues, rendez-vous plutôt au cœur de Montmartre, à l'Atelier Véron plus précisément. Le sculpteur Paul Toupet y ouvre une exposition oraculaire où la matière devient mystique somatique. Entendez le sacré qui se manifeste dans la sensation. D'abord les plumes tout autour, elles affleurent, elles se plantent, elles s'accrochent. Cire, tresse, corde, dentelle, résine. Et la plume dit l'aile, et l'aile dit l'ange. Or l'ange ici procède d'une anagogie, osons le terme, d'une pneumatologie plastique, à savoir d'un souffle fait forme, d'une montée céleste comme événement de matière. Mais cette ascension, rassurez-vous, a son revers charnel, parce que le sublime, chez Toupet, s'incarne et redescend au ras de la peau, du pansement, de la suture, et le corps doré, paré, sans lumine d'étoiles, de volutes, d'arcanes, de chimères, comme pour nous faire sentir par l'éclat de la couleur une liturgie tactile, comme si une sève venait sous nos yeux fleurir transcutanément. D'où ces chérubins polycéphales, ces figures à 11 visages parfois, mélancolie, ferveur, extase, j'en passe, qui par l'ornement ouvrent au dénuement. Et puis il y a partout ces masques de lapin posés sur des visages d'enfants. Attention toutefois, le lapin ici n'est pas un motif mignon, non, il fait totem. Paradoxal, douceur certes, mais aussi altérité archaïque, trouée d'innocence qui n'innocente rien. Même veine dans le travail au long cours, et pas seulement ici à l'Atelier Véron, avec la série Flamboyance. Fusion d'idoles lobreaux et de bestiaires panthéistes, passion chrétienne comprise non comme catéchisme, mais comme intensité de transfiguration. Masque de lapin toujours, mais aussi tatouage kawaii en faïence de Delft, rose féline, piéta carolienne, féerie gothique ou cosmogonie Dark Wave, une mythologie bricolée entre baroque napolitain manière 18e siècle, sur réalisme sucré à la Mark Ryden ou hindouisme parfum black metal. Bref, un syncrétisme serré où la surface est déjà une profondeur. On pourrait même parler ici de hiérophanie pop, soit un sacré qui se lève depuis les matériaux à la limite de l'icône et de l'objet magique. Souveraineté de l'art outsider, avec Toupet, la matière ne croit pas forcément en Dieu, mais elle croit en sa propre puissance. Et c'est peut-être là que Paul Toupet, sculpteur, touche au sublime. Paul Toupet, exposition personnelle à la galerie L'Atelier Véron à Paris jusqu'au 29 mars 2006, en partenariat avec Hey Modern Art and Pop Culture.
Merci Paloma. Donc effectivement, Atelier Véron, c'est tout près du Moulin Rouge, dites-moi.
Mais notamment, mais on voit que vous avez vos petites habitudes, cher François.
Ah oui, qu'est-ce que vous voulez avec l'âge?
On se déprave.
On sort la nuit. Voilà, donc Paul Toupet, beauté allotropique ou la possibilité des formes, c'est donc à l'Atelier Véron jusqu'au 29 mars. Je passe maintenant la parole à Antoine Guillot.
Oui, qui veut vous donner...
Paranoïaque, non, c'est pas une injure.
Toujours.
C'est le titre du livre.
Alors, si je vous dis, cher François, ce n'est pas parce que tu es parano qu'ils ne vont pas essayer de t'enfermer. C'est une bonne définition de paranoïaque. J'en connaissais une autre, c'est « je ne suis pas paranoïaque, Dieu me l'a dit ». Voilà. Alors, c'est un peu l'esprit de la nouvelle... Enfin, une nouvelle bande dessinée de Robert Crumb. Robert Crumb, le grand pape patriarche de la BD underground américaine, qui n'avait plus rien publié depuis 2009. 1989 et son adaptation phénoménale et étonnante de la Genèse. Alors que devient Robert Crumb depuis notamment que sa femme est morte en 2022, la grande autrice de bande dessinée aussi qui était Aline Kominsky-Crumb? Eh bien graphiquement il va très très bien. Il a 82 ans, une vigueur graphique stupéfiante.
De même un entretien.
Il a donné une sorte de drôle d'entretien au journal Le Monde.
Je me souviens de l'époque, c'était... il y a 20 ans dans cette émission, où alors parler à Crumb, on avait réussi à choper 10 minutes, c'était...
J'avais fait un entretien avec Crumb Aline Kominsky-Crumb pour la Genèse, déjà. Non, il va très très bien graphiquement, mais alors dans sa tête, ça va pas du tout en ce moment. C'est-à-dire qu'il est pris d'accès de paranoïa totale, comme il a toujours fait dans sa vie, qu'il couche sur papier, chaque fois que ça va pas, il écrit, il dessine, et donc ce sont 12 histoires inédites qu'on lit ici, dessinées entre 2023 et 2025, où, comme beaucoup de personnes qui viennent de la contre-culture, qui ont passé leur temps à leur dire, il faut se méfier des pouvoirs, il faut se méfier de tout ce qu'on nous raconte, bah, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça donne la paranoïa anti-vax. D'ailleurs, Crumb explique que jamais il se ferait vacciner contre le Covid, parce que tout ça, ce sont les entreprises de la biotech qui sont derrière et qui gagnent énormément d'argent derrière. Donc déjà, c'est assez perturbant de lire ça. Mais alors, lui, il le couche sur papier dans des logorées sidérantes par moment, où on comprend en fait qu'il est obsédé par ça, qui obsède beaucoup de gens dans le monde, hein, et en Amérique, en le couchant sur papier, ou en couchant sur papier aussi tous les gens qui lui font très peur. Alors il y a plein de petits visages de gens qu'on ne connaît pas, mais on reconnaît quand même Trump dedans, Jed Evans et d'autres. Et puis il revient sur des épisodes étonnants de sa vie, notamment un very bad trip qu'il a vécu sous LSD en 1966, où il se demande si déjà on n'avait pas expérimenté des médicaments sur lui, à l'époque où on disait que c'est la CIA qui introduisait la LSD dans les campus américains pour essayer de voir ce que ça allait faire et tester des drogues qui pourraient servir pour les soldats. Alors là, ça s'est très très mal passé pour lui, et il se demande si c'est pas là l'origine de sa paranoïa. Mais il raconte aussi des choses très très émouvantes. Vous savez qu'avec sa femme Aline Kominsky-Crumb, il faisait cette série de bande dessinée qui s'appelait Dirty Laundry, où chacun dessinait son rôle, et il montrait comme ça comment ils se chamaillaient, comment ils allaient pas du tout comme couple, mais c'était formidable. Là, elle est morte. Mais ils ont écrit une histoire avant, et c'est lui qui la dessine, et tout d'un coup il dessine sa femme dans un geste d'un amour fou, parce que graphiquement c'est sublime, où elle raconte comment tous les éditeurs qui l'ont publié ont fait faillite, et les galeries qui l'ont publié aussi, donc ils disaient voilà, j'ai vraiment un très très mauvais karma. Donc voilà, c'est extraordinaire, c'est assez déroutant par moments, ça s'appelle Chronique de la paranoïa, et c'est l'éditeur français de Crumb Cornelius qui le sort. Autre nouvelle d'un grand papy de l'underground qui est Bill Griffiths, qui a exactement le même âge que Robert Crumb. Il vient de sortir Three Rocks, ça c'est chez Casterman, et c'est l'histoire d'Ernie Bushmiller. Vous connaissez Ernie Bushmiller? Ernie Bushmiller,
comment?
C'est une star aux États-Unis. C'est lui qui, pendant 50 ans, de 1933 à sa mort en 1982, a dessiné Nancy. Nancy qui est un strip extraordinaire de la bande dessinée, qui est très très connue aux États-Unis, mais qui a surtout fasciné les sémioticiens, tous les intellectuels là-bas, parce que c'est la bande dessinée à l'état pur. C'est pas l'histoire d'une petite fille, c'est l'histoire de la bande dessinée, et de comment jouer avec ses codes de manière minimaliste. Et il y a notamment un moment extraordinaire de conversation entre Samuel Beckett et Ernie Bushmiller, parce que Samuel Beckett rêvait de scénariser des strips de Nancy. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, je vous laisse lire ce livre extraordinaire, Three Rocks, l'histoire d'Ernie Bushmiller, l'homme qui créa Nancy, préface d'Art Spiegelman.
Merci Antoine, merci Hélène Usna, merci Bonnie.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été les invités ce soir de Mauvais Genre pour ce fabuleux album Détroit Roma aux éditions Sarbacane. Paul Toupet, c'est à l'atelier Véron, 31 rue Véron, Paris 18e jusqu'au 29 mars. Et puis Chronique de la paranoïa, c'est aux éditions Cornelius et chez Casterman, Bill Griffiths, Three Rocks, l'histoire d'Ernie Bushmiller, l'homme qui créa Nancy. Et puis n'oubliez pas de réécouter la chronique de Sixtine sur le festival de Gérard Bé. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laure Polleret, Minetta Diawara, Claire Poissilon, Sixtine Hautebert, Clamart Adugard, Paloma Hermina Hidalgo, Antoine Guillot et François Geulier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. Rendez-vous samedi prochain avec Delphine Gachet pour Venise Fantastique.